que le Seigneur vous bénisse. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Mais voilà, Dieu veut parler. Dieu veut parler, Dieu parle. Dieu veut parler. Est-ce que vous en êtes conscient? On n'est pas toujours convaincu que Dieu sait comment nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la suite, ça fait pitié. Et il est dit, l'homme n'y prend pas garde. Ce soir, Dieu veut vous parler. À chacun, je le crois vraiment. Dans Daniel, on va lire l'histoire qui nous intéresse. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, verset 1er. Un homme à qui Dieu a voulu parler. Comment Dieu vous parlera-t-il? Est-ce que vous le savez comment Dieu va vous parler? Par sa parole, mais Dieu peut parler d'une manière particulière par sa parole. Regardez cet homme. C'était un roi. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal, « Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. » Alors, le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. J'ai donné comme titre à ma prédication « Troublé par ses pensées ». Voilà un homme qui est en train de faire la fête et à qui tout d'un coup Dieu va vouloir parler. Et Dieu va parler d'une manière tellement forte que cet homme va en perdre tous ses moyens. Dieu parle, Dieu parle. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour réfléchir. Et cet homme va tellement exagérer que Dieu va lui parler, comme on l'a entendu par ce merveilleux cantique, pour la dernière fois, et ça va, hélas, très mal se terminer. Dieu a voulu que nous ayons des histoires comme celle-ci, pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas écouter Dieu n'importe comment. Oui, il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour réfléchir. Ce soir, nous sommes venus prier, il y a eu un temps pour prier. Tout à l'heure, nous aurons un temps pour nous détendre un petit peu. On va rester un quart d'heure, demi-heure, on va parler avec les uns. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de communion fraternelle, on a besoin d'amour et d'affection. Mais il y a ce temps précieux où Dieu nous amène à réfléchir par sa parole. Dans le psaume 119, verset 59, David dit « Je réfléchis à mes voies ». Vous voyez, si vous lisez cette partie, vous voyez un homme, il réfléchit. On a parlé de cet homme selon le cœur de Dieu, il réfléchit. Là aussi, il est troublé. Il est troublé. Il est troublé dans son âme, vous le lirez. Je suis troublé dans mon âme. Est-ce que vous avez déjà été troublé? Oui. Oui. Ça vous a amené à quoi? À vous fatiguer? À réfléchir? Voilà. David était troublé. Mais je peux vous dire que l'attitude de David, quand il a été troublé, va être différente de celle de ce roi. Vous voyez, pourtant c'était deux rois. Mais chacun a réagi à sa façon. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 14, on pourrait le lire, tiens. Gardez la page parce qu'on y reviendra, parce que c'est important. Dans l'Ecclésiaste, regardez ce qui est écrit. C'est bien qu'on le lise. Parce qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Et Dieu peut permettre des moments difficiles. Vous le savez ça? Est-ce que je vous apprends quelque chose? Je ne pense pas. Si je vous apprends qu'il y a des temps difficiles, venez me voir, il faudra qu'on fasse quand même le point. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Donc il y a des temps de bonheur où on apprécie les choses, merci Seigneur. Et il y a des temps de malheur, eh bien peut-être qu'il faudrait savoir dire aussi merci. Parce que ces temps-là vont me permettre de réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Et vous savez, comme moi d'ailleurs, que plus nous allons, de moins en moins, les gens réfléchissent. Ils sont accaparés par du bruit, tout le temps avec la musique. Il y a des gens qui sont tout le temps avec un casque sur la tête. Mais Alors ils se détendent, c'est bien. Est-ce que c'est bien d'écouter de la musique? Est-ce que c'est bien tous ces outils pour écouter de la musique? Moi je pense, tous ces baladeurs, tout ça. Est-ce que c'est bien? Moi je pense que c'est bien. Mais il faudrait savoir les utiliser à leur juste mesure. Et ne pas faire en sorte que ces choses-là nous empêchent de réfléchir. Car le vrai problème, c'est que les gens ne réfléchissent plus. Et ils sont conditionnés. Il y a des gens, dès qu'ils se lèvent, par exemple, clac, ils allument la télé. Il leur faut un bruit de fond, il leur faut de l'ambiance. Il y a des gens, ils ont toujours du bruit. Et on dirait que tout est fait pour nous empêcher de réfléchir. La réflexion, ça fait partie de l'homme. Dieu a donné à l'homme la possibilité de réfléchir. On n'a jamais vu un chien réfléchir. Enfin, je ne pense pas qu'un chien réfléchisse sur la galaxie, etc. Est-ce que Dieu a donné à l'homme la grâce de pouvoir réfléchir? Moi, je crois que c'est vraiment une bénédiction. Ce texte-là de Belshazzar, je suis convaincu, comme ce cantique, que Dieu nous les a laissés pour que l'on puisse apprendre à réfléchir. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Ils écoutent la parole de Dieu, c'est bien, c'est pas bien, le prédicateur il est comme ci, l'église il est comme ça, mais ils ne réfléchissent pas sur l'état de leur âme. Nous avons, nous tous, des projets. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir, les années à venir? Est-ce que vous faites des plans? Est-ce que vous faites des plans? Bon, mais vous ne savez pas, en vérité, nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans les prochaines heures, dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochaines minutes. Est-ce qu'en sortant, une voiture peut nous renverser? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que Dieu peut permettre que ce soir, il nous reprenne, l'un d'entre nous? Mais bien sûr que ça peut arriver. Notre vie ne nous appartient pas. Donc, lorsque Dieu permet des situations, quelles qu'elles soient, ça devrait nous arrêter et provoquer certaines convictions et dire, tiens, mais c'est vrai quand même, ce qui m'est arrivé, il ne faut pas que je le mette sur l'autre du hasard, il faudrait que ça me fasse réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la prière, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Un trouble, puisque cet homme a été troublé, quel qu'il soit. Parce que des fois, il y a des gens qui sont troublés par une chose, d'autres par autre chose, mais un trouble, quel qu'il soit, devait être comme un signal et nous permettre de réfléchir. Pourquoi cette chose m'a-t-elle troublé? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Oui ou non? Il y a des gens qui sont troublés, je ne comprends pas, ça m'a troublé. Ben oui, quand on voit le résultat quelques jours après, je peux vous dire que ça ne les a pas approchés de Dieu. Ce qui est arrivé à Belshazzar, est-ce que ça peut arriver aujourd'hui à quelqu'un? Est-ce que ça peut arriver? Bien sûr, ça peut nous arriver à nous. Hein? Nous avons traversé des situations difficiles. Combien de gens m'ont dit, oula, ce que j'ai traversé, ça m'a troublé. J'ai été troublé par cette affaire. Au travail, j'ai vécu ça, mais ça m'a profondément troublé. Alors, cela doit nous faire réfléchir. D'ailleurs, une réunion comme celle-ci, ça a ce but-là, de dire, mais où est-ce que j'en suis vraiment? Est-ce que je suis capable de réfléchir? Est-ce que véritablement je suis assez soucieux, quand je lis la Bible, de me confronter à moi-même? Il y a des gens qui me disent, oh, c'est pas grave, on s'en fiche, voilà, ce que les gens me pensent, moi, ça m'est égal, je vis au jour le jour, etc. Moi, je pense qu'on doit être capable de réfléchir, puisque la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Il ne faut pas s'énerver. Il y a des gens au jour des malheurs. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, dites, aidez-moi. Vous allez m'aider. Qu'est-ce qu'ils font au jour des malheurs, les gens? Comment? Dites, aidez-moi. Après tout, ils se plaignent. Voyez, ils s'en vont tout balader, etc., etc. La Bible est claire. Au jour du malheur, réfléchis. Si vous êtes en train de traverser quelque chose, réfléchissez. Dieu va vous aider. David réfléchissait sur ses voies, quand il était troublé, il réfléchissait. On aurait pu prendre l'exemple de David, qui est très positif, mais c'est bien, comme on l'a chanté, de prendre un exemple qui nous montre que la confrontation avec Dieu existe, et la meilleure façon de préparer une confrontation avec Dieu, c'est de commencer à réfléchir. Cet homme, il n'était pas habitué à réfléchir. Pourtant, il était roi. Peut-être il réfléchissait pour l'état des routes avec ses ministres. Enfin bon, peut-être il réfléchissait à beaucoup de choses, mais il ne réfléchissait pas sur les choses spirituelles. Les rois, vous savez, ces rois-là, quand on voit l'histoire de ces rois-là, on se plaint de certains. Quoique certains. On en voit quelques-uns aujourd'hui encore, hein, qui continuent à détruire leur pays. On voit cette cruauté. Vous voyez ce qui se passe aux informations. Vous avez vu ce qui se passe, bon, je peux le dire quand même, en Syrie, c'est en Syrie, hein, ou en Libye, en Syrie. Vous avez vu ce qui se passe quand même. On voit ce que l'homme est capable de faire, voyez. Bon, ça nous fait penser que beaucoup de rois sont remplis de méchanceté, de cruauté. On a du mal à croire qu'un homme puisse bombarder son propre pays. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Mais enfin, ça vous montre combien la férocité, les gens sont sans pitié et sont capables pour le pouvoir eh bien, de faire des choses terribles. Quand vous lisez l'histoire de Belshazzar, quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez également son père qui avait, à cause de l'orgueil, à cause de son orgueil, attiré le jugement sur sa vie. Et il savait ces choses. Regardez, si vous avez gardé votre Bible dans Daniel, regardez, il en savait des choses. On n'a pas tout lu, mais quand il est confronté à Daniel, donc ce prophète, alors on en est où ? Chapitre 5, regardez le verset, il va lui parler de son père. Voyez, vous savez, Dieu nous parle, ce qu'on a vécu, ce que les autres ont vécu. Tiens, rappelle-toi ce que celui-ci a vécu. Dieu parle à Belshazzar, il dit, mais rappelle-toi, tiens, ton père. Daniel chapitre 5, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devient semblable à celui des bêtes. Vous croyez qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ressemblent de plus en plus à des animaux ? Oui, il y en a. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme bœuf de l'herbe à manger. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Il y en a, ils sont obligés de tomber bas. Dieu les fait tomber bas pour les amener au plus haut. Regardez, verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu saches, toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison, vous voyez, des choses saintes, ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi, tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Il y a un Dieu dans les cieux qui a notre vie dans sa main. Alléluia. Notre vie, vous pouvez le calculer comme vous voulez, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez mal en bonne santé ou que vous soyez malade, de toute façon, notre vie, elle est dans la main de Dieu. Et cet homme était au courant, parce qu'on est au courant, tiens, mais ce qui est arrivé à un tel, ça devrait me faire réfléchir. Comment cet homme a terminé ? Ça devrait me faire réfléchir, etc., etc. Tu t'es élevé contre le Dieu des cieux. Mais lui, comme il était roi, il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait pouvoir de vie et de mort sur les gens. Il faisait vivre qui il voulait. Il faisait mourir. Il pensait qu'il était le maître de la vie. Nous ne sommes pas les maîtres de la vie. C'est Dieu qui est le maître de la vie. Et à un moment donné, il peut tout arrêter. Ces gens... Cet homme faisait ce que les gens font aujourd'hui. Vous avez vu cet homme ? C'était un roi, il faisait la fête. Voilà, il voulait boire avec ses amis. Quelle misère. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Se réunir pour boire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien ? Se réunir pour boire, pour s'amuser, se divertir, ne penser qu'à ça. Vous rappelez ce que Jésus a dit ? Les hommes mangeaient, buvaient, ils pensaient qu'à ça. Le résultat est pitoyable. Vous savez comment ça va se terminer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger et pas boire. Mais il y a des gens qui pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à manger, ils ne pensent qu'à boire, ils ne pensent qu'à se divertir, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ce genre d'ambiance, si vous vivez dans ce genre d'ambiance, qu'à penser à vous divertir, ce n'est pas bien sûr propre à la réflexion. Ben, je crois qu'une ambiance comme celle que nous avons là ce soir, nous avons prié, nous avons chanté, c'est très favorable à ce que nous réfléchissions et non pas à faire la fête. Et surtout, la méditation nous pousse à la repentance. Lorsque vous êtes confronté à la bonté de Dieu, vous ne vous échappez pas en disant « Oh, Dieu est bon ». Non, la Bible dit que la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous pousse à la repentance. Lorsque vous êtes confronté à la bonté de Dieu, ça va vous approcher de lui, ça va vous amener à cette réflexion. Mais oui, quand même, la bonté de Dieu, ce que Jésus a fait pour moi, ça ne peut pas me détendre et m'amener à faire ce que je veux. Ça ne peut que m'amener à une véritable réflexion. Nous sommes dans un monde très grave, en fait, je ne vous apprends rien. Nous sommes dans ce monde où mangeons et buvons et demain nous mourrons. Voilà, les gens sont. Vous regardez comme moi les informations, vous imaginez comment c'est grave. Nos discussions avant la réunion de prière, des informations à midi, l'état de nos cantines en France, les gens ils se plaignent alors qu'il y a trop quatre légumes, trop quatre féculents. Non mais il faudrait qu'ils aillent quelques jours en Afrique. Ça, je ne sais pas si vous avez vu les informations à midi, mais ça fait pitié. Est-ce que vous comprenez l'état dans lequel on nous amène? Et si nous ne laissons pas Dieu nous parler, si nous n'apprenons pas à réfléchir, au temps de la crise, réfléchis. Oui ou non? Quoique nous en sommes épargnés parce que Dieu est en train de nous bénir. Cette histoire, elle est là pour nous faire réfléchir, pour nous montrer que Dieu parle, qu'il a une main pour bénir, mais qu'il a une main aussi pour juger. Est-ce que c'est écrit que la main de l'Éternel est sur ceux qui le cherchent? Je lisais tout à l'heure Néhémie, combien de fois il a dit « la bonne main de mon Dieu était sur moi ». On le voit. On voit cet homme, la main de Dieu était sur lui. Quand on rebelle Shadjar, la main de Dieu était vraiment contre lui. Cette histoire, elle est là pour nous montrer que le péché, il nous amène à faire des bêtises, de plus en plus. Il a commencé à boire, à boire. Puis qu'est-ce qu'il a fait quand, une fois qu'il était ivre, il a fait venir les vases du temple. Vous savez, quand le péché nous amène à profaner, mépriser les choses saintes, c'est pas bon signe. Comment parlez-vous des choses spirituelles? Parce que les gens se moquent des choses spirituelles. Je ne sais pas comment font certains chrétiens qui me disent qu'ils regardent des one-man shows avec des comiques qui se moquent parfois de Dieu. Moi, je ne peux pas. Moi, je vous le dis franchement, je ne veux pas critiquer, je ne peux pas. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle profaner les choses saintes. On peut rire autrement, croyez-moi. Donc, on voit dans cette histoire que le fait de penser qu'à s'enivrer, qu'à se détendre, ne va pas nous amener à la réflexion, mais au contraire, va nous amener à profaner les choses saintes. Alors, par contre, ils ont adoré les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Combien c'est triste de voir qu'encore certains chrétiens même se posent des questions par rapport aux idoles. La Bible dit que quand on se convertit, on abandonne les idoles. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est converti? C'est écrit. Comment vous vous êtes converti en abandonnant les idoles? Et on va lire quelques textes pour nous prouver qu'adorer les idoles ne pousse pas à la réflexion. Regardez avec moi, dans Ésaïe 46, parce que c'est quand même écrit dans cette histoire, Daniel va reprendre de nouveau cette chose grave dans Ésaïe. Alors 46, 5 à 8. Regardez. C'est important. Peut-être que quelqu'un se pose encore des questions. Est-ce que je peux prier la Vierge? Est-ce que je peux prier les idoles? Écoutez-moi, la Bible est catégorique. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et c'était bien expliqué, lisons-le. Ésaïe 46, verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent dans la balance, ils peignent l'orfèvre pour qu'ils en fassent un Dieu. Et ils se prosternent et adorent, ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place, il y reste, il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs, rentrés en vous-même. Vous voyez que Dieu nous explique que les idoles ne peuvent absolument pas parler. Et que ce sont des dieux que Dieu rejette, que c'est l'invention de l'homme. Regardez à chapitre 44, c'est important, c'est écrit, c'est important. Et ça nous pousse à la réflexion. On va lire quand même un long texte, et je crois que c'est bien. Regardez du verset 10 au verset 20. Lisez-le avec moi. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou font une idole, pour en retirer, regardez bien le premier résultat, aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Ça vaut la peine de le méditer tout ça. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Voilà comment ça finira. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Et il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il se fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi. Il dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme ». Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon dieu ». Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point, ils ne rentrent pas en lui-même. C'est sévère, hein? Dieu est très sévère avec ça. C'est parce que ça l'est. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « j'en ai brûlé la moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination ». Je me prosternerai devant un morceau de bois. Regardez la suite. Le verdict. Il se repaît de cendres. Son cœur abusé l'égare. Et il ne sauvera point son âme et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Et on pourrait lire... Bon, peut-être que le verset 19 nous aide. Il ne rentre pas en lui-même. Et... voyez, il ne peut pas y avoir cette capacité de réfléchir. Les idoles, en fin de compte, elles ne font que nous enfermer dans les ténèbres. Il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est pas grave, vous savez, moi je fais la différence entre la mariologie et la mariolatrie. » Moi j'ai entendu ça, vous voyez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, je prie Marie, mais je ne l'adore pas. Ah d'accord, oui. Et oui, j'étais à un séminaire où on faisait la différence entre la mariologie et la mariolatrie. J'ai dit « Écoutez, voyez jusqu'où on peut arriver. La personne qui adore des idoles ne rentre pas en elle-même, ne sauvera pas son âme, parce que ce sont des choses qui sont en abomination devant Dieu. Au jour du malheur, réfléchis. Une idole ne pourra pas vous sauver. Vous relisez ce texte et vous allez voir que ça se terminera très mal. Oui, Dieu a une main pour bénir. Ce soir, la main du Seigneur, elle veut vous bénir. Alléluia. Si vous êtes là, oh, je réfléchis, c'est vrai ce que dit le pasteur, c'est la parole de Dieu, il ne faut pas que je me fasse des idoles, parce qu'il y a les idoles d'or, d'argent et de fer, mais on peut se faire des idoles de certaines personnes qui nous empêchent d'obéir à Dieu. Combien de femmes ont eu un mari, une idole, le mari disait « tu ne vas pas à l'église », elles n'allaient pas à l'église. C'était ce que l'idole disait, qui prenait le dessus, sur la parole de Dieu. Et si vous avez des idoles, vous ne pouvez pas rentrer en vous-même, vous ne pouvez pas réfléchir. Moi, c'est moi qui je vous le lis, il ne sauvera pas son âme. Il y a des gens, ça fait pitié. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui aux informations, la quantité de gens qui adorent des idoles, ils sont là, tout est époustouflé, tout est émerveillé. Quand on adore des idoles, on ne va pas au ciel. Vous entendez? Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, en vérité, c'est avec Dieu que vous n'êtes pas d'accord. La volonté de Dieu, c'est que nous rentrions en nous-mêmes, que nous réfléchissions, afin que nous ayons une bonne conscience. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, que nous ayons une bonne conscience? Le baptême, c'est quoi le baptême? C'est quoi le baptême? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Où en sommes-nous ce soir de notre conscience? C'est quand même une question que le pasteur a le droit de poser aux auditeurs d'une église. Où j'en suis de ma conscience? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que j'écoute ce que je suis en train d'entendre? Est-ce que je suis sourd à la voix divine? Parce que si ce soir Dieu m'a mis à cœur cette prédication, c'est que quelqu'un a besoin de faire le point par rapport à ces choses, que Dieu parle, que Dieu a une main pour bénir, on n'a pas pris le temps de lire les textes, mais que vous avez vu avec moi, que Dieu a une main pour juger. Également, c'est sérieux. Est-ce que je suis sourd aux choses divines ou est-ce que je me contente d'une idole? Mais c'est sûr que prier un morceau de bois, ça vous aurez pas de problème avec. C'est sûr, il va pas vous dire repens-toi. C'est quand même, il y a le bon côté de l'idolatrie quand même. C'est pas une idole, même un or qui va vous dire repens-toi, mets ta vie en règle. Qu'est-ce qu'elle va vous dire une idole? Oui. C'est clair que ça. Il y en a un qui sait s'y prendre pour vanter les idoles. Mais la question que je nous pose ce soir. Voyez en comparaison de suite, Comment traitez-vous les choses éternelles? Que pensez-vous des choses éternelles? L'éternité, l'éternité. On va vivre combien sur la terre? 20 ans? Combien on vit sur la terre? 40 ans? 80 ans? 60 ans? 100 ans? Je vous pose une question, soyons sérieux. Qu'une personne vive 20 ans ou qu'une personne vive 100 ans, aux yeux de l'éternité, est-ce qu'il y a une différence? Aux yeux de l'éternité, il n'y a aucune différence. Vous voyez comment nous, on est influencés par le temps. Mais si vous mettez 20 ans et 100 ans sur la ligne de l'éternité ou sur le cercle de l'éternité, ça ne veut absolument plus rien dire. Comment je traite les choses éternelles? Comment je traite les choses divines? Est-ce que je suis troublé? Est-ce que c'était bien qu'il soit troublé, cet homme? Oui, c'est bien. Oui. C'était bien qu'il soit troublé. Vous vous rendez compte, tout d'un coup, alors qu'il exagère, qu'il pensait qu'à faire la fête, paf, tout d'un coup, imaginez-vous une main sur le mur de la salle à manger, là, une main qui écrit des choses qu'il ne comprend pas, bien sûr, il a bu, il n'est pas en état de réfléchir, une main qui écrit. Une main qui écrit. Est-ce que Dieu est en train de vous parler? Est-ce que Dieu est en train d'écrire dans votre vie? Est-ce qu'un verset biblique est en train de vous interpeller? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous trouble? Est-ce que ça vous encourage? Qu'est-ce que vous pensez de la main de Dieu? Tout ça, c'est écrit pour qu'on y réfléchisse. Êtes-vous à l'abri? Êtes-vous à l'abri du jugement? La main de Dieu est-elle sur vous pour vous protéger? Est-ce que vous pouvez dire, mais oui, j'ai accepté la croix, j'ai accepté Jésus-Christ. La main de Dieu, elle est pour moi, pour me bénir. Heureux êtes-vous? Si vous pouvez dire, oui, je sais que la main de Dieu, elle est pour ceux qui te cherchent, je te cherche et je crois que tu me béniras. Cet homme était troublé, mais c'est normal qu'il soit troublé. Avec tout ce qu'il a fait, on voit le peu qui est dit, ses méchancetés, ses vices, sa cruauté, etc., les guerres. Regardez, je parlais du roi, du président de la Syrie. Est-ce qu'il y a de quoi être troublé pour un homme comme ça? Il peut dire ce qu'il veut, il y a de quoi être troublé quand même. Quand par des bombardements, vous faites tuer des milliers d'enfants, moi je ne sais pas, il y a de quoi être troublé. Bon, on peut parler de Belshazzar pendant des heures et dire des choses intéressantes. Mais en ce qui nous concerne à nous ce soir, en ce qui nous concerne, est-ce que vous êtes troublé? Est-ce que dans votre cœur vous êtes troublé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous perturbent? Est-ce que votre âme est en paix? Etc. Est-ce que vous vous moquez des choses sacrées? Ou est-ce qu'au contraire, vous respectez tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Ce soir, vous devez pouvoir dire, oui, la main de Dieu, elle n'est pas contre moi. Elle n'est pas là pour écrire, peser, tu as été pesé, compté et divisé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Quand on n'a pas Jésus dans notre vie, on est tous légers. Vous comprenez bien? Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous pouvez être sûr que vous vous entendrez dire, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. S'il y a Jésus avec vous dans la balance, laissez-moi vous dire que vous ne serez pas trouvé léger, que vous serez avec lui. La main de Dieu, elle est pour vous la main de Dieu. Néhémie, vous le lirez, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Dieu a entendu mes prières, sa bonne main était sur moi. Alors ne nous mêlons pas aux choses du monde. C'est vrai qu'il faut, on est dans le monde. Il faut aimer les gens du monde, mais ne vous mêlez pas aux gens du monde. Moi, quand je vois des chrétiens qui me disent « Ah, on n'était pas là encore ce dimanche, on était un anniversaire, on était avec les copains, on a fait un repas, il y avait un gueuleton, tout ça. » Bon, une fois, ça peut aller. Mais quand on voit des gens, une fois sur deux, une fois sur trois, qui sont attirés par ces choses, moi, ça me gêne. Vous allez me dire « Monsieur Gault, ce n'est pas votre problème. » Vous avez certainement raison, mais c'est révélateur de ce qu'on aime le plus. Vous ne croyez pas? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nous se retrouver dans la présence de Dieu comme vous le faites ce soir? Oui, à quoi ça sert les réjouissances de la terre si ça doit nous éloigner de Dieu? Ne vous mettez pas avec des gens qui tournent les choses saintes en ridicule. Parce qu'il y en a des gens, même des chrétiens. Moi, ça m'est arrivé de reprendre des chrétiens, je dis, mais on ne rit pas avec les choses spirituelles. Vous savez, c'est vite fait de rire avec les choses. Ne riez pas des choses spirituelles. Ne le faites pas. Prenez cette habitude. Tant pis, quitte à passer pour quelqu'un d'un petit peu excessif, ne riez jamais avec les choses spirituelles. Ne vous mêlez jamais avec des débauchés. On voit comment ça se termine. Vous savez, les mots qui ont été écrits sur la muraille, ce sont des paroles de jugement. Moi, je n'ai pas envie que nous ayons des paroles de jugement. Moi, j'ai envie que sortent de la bouche du Seigneur envers chacun de nous des paroles de grâce. Vous avez envie que ça se passe bien? Comment vous avez envie que ça se passe quand Jésus va vous parler? Parce qu'un jour, Jésus va vous parler. Vous le savez, vous allez le voir, Vous allez le voir. Vous allez voir ses mains, ses cicatrices. Est-ce que vous y pensez à ce moment? Est-ce que c'est écrit ce que je vous dis? Oui, c'est écrit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal. Qui sait qui est le juste juge? C'est Jésus. Et il ne faut pas que sa main soit contre nous. Et si vous dites au Seigneur, moi je n'adorerai pas les idoles. Parce que je l'ai entendu dernièrement. Oh, vous savez, je prie Jésus, mais de temps en temps, je prie les idoles, je ne veux pas avoir d'histoire avec ma famille. Mais les histoires, vous les aurez avec Dieu. Avec qui vaut mieux avoir des histoires? Avec sa famille ou avec Dieu? Moi, je préfère avoir les histoires avec ma famille qu'avoir les histoires avec le Seigneur. Alors, soyons sérieux, la main de Dieu n'écrit pas que des paroles de jugement. On pourrait y dire beaucoup de choses. La main de Dieu, elle veut bénir ses enfants. C'est pour cela que Jésus a laissé ses mains se crucifier sur le bois de la croix. Et je voudrais vous encourager, parce qu'il y a des paroles de grâce pour les chrétiens. Quel bonheur quand on rentrera dans sa présence. Vous n'avez pas envie d'entendre « entre, bon et fidèle serviteur ». Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils vous disent? Parce que quand même, il y a des petits éléments qui nous permettent de comprendre ce que le Seigneur va nous dire. Vous n'avez pas envie d'être fidèle jusqu'à la fin, de vous entendre dire « tiens, ma main, elle est là pour te bénir, pour l'éternité ». C'est ce que Dieu veut. Mais cette histoire, elle est sévère. Oui, elle est sévère. Parce que cet homme, dans la nuit, il a été tué. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris au sérieux. Oui, tu n'as pas humilié ton cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu saches, toutes ces choses. Il avait quelqu'un de bien quand même à portée de. Il avait le prophète Daniel à 200 ou 300 mètres de chez lui. Il ne le savait même pas. Ça fait pitié, non? Vous ne trouvez pas que ça fait pitié? Il y aurait le prophète Daniel ce soir qui prêche à 300 mètres. Où vous auriez été ce soir? Allez, allez. Mais moi aussi, j'aurais dit, on y va. Ne vous inquiétez pas, j'aurais été avec vous. Sérieusement, il avait le prophète Daniel à quelques mètres de chez lui. Il ne le savait même pas. Par contre, les pêcheurs et les buveurs, il les connaissait. Mais c'est un peu, nous, c'est pire. Et nous, c'est mieux. Parce que nous, on n'a pas Daniel. Mais qui on a, nous? On a le Saint-Esprit qui est près de... Et les gens, est-ce que les gens le savent, le Saint-Esprit sur la terre? Parlez aux gens que le Saint-Esprit est en vous. Dites aux gens que le Saint-Esprit est répandu sur la terre. Ils vont vous regarder en vous disant, mais t'es malade. On a plus grand que Daniel. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à réfléchir. Alors si vous êtes dans le malheur, ne vous énervez pas. Au jour du malheur, réfléchis. Si le Seigneur écrit quelque chose, s'il y a un verset qui vous trouble, eh bien, tenez en compte et dites, je vais m'humilier, je vais m'humilier. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va fermer les yeux quelques instants. Peut-être quelqu'un a besoin d'une parole de grâce. Sachez que la main de Dieu, elle a été crucifiée en Jésus pour vous bénir et non pas pour vous condamner. Jésus n'est pas venu sur la terre pour juger, il est venu pour sauver les hommes. On se recueille et peut-être quelqu'un a besoin de faire une expérience profonde avec le Seigneur. Quelqu'un a besoin de dire, mais ça suffit, il faut que j'arrête avec mon péché, avec les idoles. Les idoles, ce n'est pas peut-être une image en pierre, c'est peut-être quelque chose de la télé, des jeux. Il y a des jeunes, ils passent 3-4 heures sur une PlayStation. C'est une idole, c'est une idole. Elle ne sauvera pas votre âme. Elle ne vous aidera pas à rentrer en vous-même. Alors, on va prier. On pourrait peut-être rechanter ce cantique aussi. À la porte d'un cœur. Oui, à la porte d'un cœur. Serait-ce la dernière fois? Je peux vous dire que des milliers de gens ont entendu ce cantique. Pour la dernière fois, ils sont peut-être en enfer. Ça doit être un tourment terrible, ce cantique, pour eux. D'avoir entendu ce cantique et de ne pas avoir cédé à l'appel de Dieu. Quel tourment pour ce roi Belshazzar qui est en enfer aujourd'hui et qui attend le jugement dernier. Quel tourment! Quel tourment! Voulez-vous aller en enfer? Non, je pense qu'on est là. Alors si quelqu'un ce soir dit, bon, Jésus, oui, je suis dans un malheur, je veux apprendre à réfléchir, je veux m'humilier, voilà ce que Dieu attend. Je veux m'humilier, te donner ma vie, je veux arrêter avec mes idoles, toutes ces choses qui m'éloignent de toi, toutes ces choses mondaines. Alors si vous éprouvez le besoin de venir, venez sur le devant pendant ce cantique et on priera pour vous. Que Dieu vous bénisse.